sans doute en fin de journée. Le chef du gouvernement s'exprimera depuis Matignon pour plus de précisions, alors que l'exécutif a suspendu hier soir les débats budgétaires en cours à l'Assemblée nationale. Ils ne reprendront pas avant mardi. Un an de prison ferme et trois avec sursis requis aujourd'hui contre l'interprète iranienne Mahdieh Esfandiari. Elle comparaît depuis mardi devant le tribunal correctionnel de Paris où elle est jugée pour apologie du terrorisme. Téhéran demande sa libération en échange du retour en France de nos deux compatriotes, Cécile Kohler et Jacques Paris, toujours bloqués en Iran après avoir passé 3 ans et demi en prison dans ce pays. L'appel à l'aide et le cri d'alarme du président ukrainien Volodymyr Zelensky face aux pénuries de munitions. Certains systèmes antiaériens fournis à l'Ukraine par ses alliés occidentaux manquaient de missiles lors des récentes attaques russes contre les installations énergétiques ukrainiennes. Retour en France où plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier devant le lycée Balzac de Mitry-Mory au nord-est de Paris. Une élève de l'établissement s'est suicidée mardi, victime selon sa famille de harcèlement scolaire. Une enquête administrative a été ouverte et confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale. Deux autres enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Meaux pour déterminer les causes de la mort et pour enquêter sur les faits de harcèlement scolaire. Enfin, un homme qui avoue un crime peut-il invoquer la prescription des faits pour échapper à des poursuites? La question est examinée aujourd'hui par la Cour de cassation au sujet du meurtre en 1986 de Marie-Thérèse Bonfanti en Isère, affaire résolue en 2022 lorsqu'un homme a avoué ce crime. Le CAC 40, il est en baisse en ce moment de 0,71% à 8253 points. 14h02, très exactement, sur Radio Classique. Et vous retrouvez Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Marc, bonjour à tous. Xifra aura été le virtuose au bracelet de cuir.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prime maximum, certes énergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault. h 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Petite question préliminaire. Est-ce que je dois dire Gheorghi ou Georges Xifra? Il faut vous dire que à la fin des années 60, au moment de sa naturalisation française, Xifra a francisé son prénom et qu'il est devenu Georges. Pour moi, c'est assez pratique. Si vous êtes d'accord, nous allons l'appeler Georges, ce maître, ce virtuose qui a vu le jour le 5 novembre 1921. Il est né à Budapest, mais quand je dis Budapest, vraiment dans la banlieue de Budapest, dans un endroit qu'on appelle la Terre des Anges, et qui en vérité n'était constitué que de baraquements plus ou moins insalubres, en bois blanc, montés sur pilotis à cause du sol complètement marécageux. Les autorités de l'époque trouvaient plus convenable de parler d'un bloc de résidence principale à caractère provisoire. Voilà ce que c'était que cette Terre des Anges, cette espèce de bidonville hongrois où va naître en novembre 21 le petit Georges qui vit, vous l'aurez compris, pauvrement avec son père, sa mère, ses deux sœurs, une seule chambre. Les enfants dorment sur de vieux sacs en toile de jute que les parents bourrent de paille fraîche le plus régulièrement possible. Je revois ma mère s'arrêter le soir au milieu de notre petite chambre, baissant la tête avec son visage de piéta exprimant une acceptation infinie. Elle n'oubliait pas de réciter au nom de tous sa prière du soir, dira-t-il. Georges est un enfant chétif, ça ne vous surprendra pas étant donné les conditions dans lesquelles il vit et dans lesquelles il va grandir. Un garçon solitaire aussi, tourmenté, il est sujet à des cauchemars qu'on pourrait qualifier de kafkaïens. Il est atteint d'un mal étrange qui souvent l'oblige à rester couché et ça dure pendant des heures. Il n'a pas de camarades de jeu, ce qui permet, me direz-vous, d'apprendre plus vite à lire, d'apprendre plus vite à écrire. Sa sœur aînée, Yolande, va finir par décrocher un poste dans dans un bureau, et ce qui fait qu'elle va un petit peu quand même gagner sa vie. Et c'est elle qui manifeste le désir de louer un piano. Ah ça, c'est le grand événement. Les transporteurs, un beau matin, vont livrer cette grosse boîte noire qui va faire l'attraction des résidents de la Terre des Anges. Et comme on peut s'en douter, l'instrument n'est peut-être pas tout à fait ce dont on pourrait rêver. Il n'est pas de première fraîcheur. Certaines touches sont carrément bloquées sur le clavier, d'autres manquent. Et la justesse de l'instrument est un peu en option. Mais il y a là, à côté de cette sœur qui joue, un gamin émerveillé qui regarde les doigts de sa sœur courir de plus en plus sur le clavier. Il va passer des soirées entières à imiter les gestes de sa sœur. Lui ne quitte pas son matelas, lui reste sous la couverture.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Georges est âgé d'à peine 5 ans. Il ne quitte bientôt plus le tabouret du piano, en tout cas à chaque fois que Yolande n'est pas assise dessus. Et il va faire des progrès fulgurants. Il développe son oreille, il n'a aucune notion de solfège pour autant. Il invente des accompagnements de son cru à la main gauche pour avoir entendu sa mère chanter. En faisant timidement connaissance avec le monde enchanteur des arpèges, les paysages féeriques des accords et les horizons infinis des modulations, mon goût s'enrichissait et mon plaisir décuplait, dira-t-il, en racontant lui-même sa vie. C'est son fils, Georges Siffra Junior, qui publiera en 1977 chez Robert Laffont ses mémoires de son père sous le titre « Des canons et des fleurs ». Alors, c'est vrai que le petit Xifra est une sorte de prodige. Il a un répertoire de prédilection, déjà, Gounod, Bizet, en tout cas les grands airs de Carmen. Faut vous dire que ses parents avaient vécu à Paris avant que la déclaration de la Grande Guerre ne les contraigne à rentrer à Budapest, et donc ils connaissaient la musique française. Il suffisait pour le petit Georges d'écouter une fois un morceau pour pouvoir le reproduire comme ça tout de suite au piano. Il ne sait pas lire la musique, mais c'est peut-être un avantage, c'est en tout cas comme ça qu'il le présentera plus tard, c'est lui qui nous le dit. Grâce aux exercices et surtout aux séances d'improvisation fréquentes, chacune de mes mains acquit rapidement une discipline autonome. Ainsi libéré de l'obligation de chercher à reconnaître mes notes à la fois sur la portée et sur le clavier, j'ai pu assimiler en un temps record la signification exacte de ces mystérieuses pattes de mouche dont l'apparente complexité préoccupe parfois les vocations naissantes au point de les rebuter. C'est grâce à ce système que, sans la moindre perte de temps ou baisse d'enthousiasme, j'ai continué à faire des progrès rapides tout en m'amusant. Est-ce que c'est pas finalement ça le secret d'une très grande carrière, le secret d'une vocation comme celle de Xifra, que de s'amuser, de s'enthousiasmer sans être rebuté par rien de technique finalement ? Georges va maintenant passer 5 heures, 6, 7 heures par jour devant son piano. Autant dire que la sœur a déserté la place, pour tout vous dire. Et la première fois qu'il va se produire en public, c'est devant la troupe d'un cirque ambulant qui avait monté son chapiteau dans un village voisin. Le patron du cirque a entendu le jeune prodige, il l'a trouvé incroyable et il a consenti à le rémunérer à chacune de ses apparitions. 5 couronnes à chaque fois. Disons-le, le numéro du petit Gheorghi, du petit Georges, va très vite devenir le clou du spectacle. Ça dure quand même un certain temps, 30 minutes, et c'est un travail à chaque fois éreintant pour ce petit corps chétif. Xifra va, au bout du 15e jour, déclarer forfait, il peut plus, il est trop épuisé. C'est ainsi que je découvris à 5 ans et demi la rançon de la gloire des vedettes, le surmenage, dit-il. Et à ce moment-là, survient un événement qui pourrait être dans un conte de fées. C'est un marchand ambulant, un borgne, usurier de la mode, qui va surprendre un jour le jeune Xifra au piano et qui va dire, en étant tout à fait séduit par ce qu'il entend, que ce gamin-là est suffisamment doué pour suivre des cours à l'Académie Franz Liszt de Budapest. Et il a l'air sérieux, ce monsieur. Et on va l'écouter. Et la famille va se cotiser pour offrir au petit Georges des vêtements convenables pour aller se présenter à l'académie. Et cet étrange revendeur revient une semaine après. Il confirme que le rendez-vous a lieu le lendemain avec Ernaud Donani, qui est le directeur de l'académie. Autant dire qu'il faut complètement traverser Budapest. On est loin là de la cour des anges et la capitale que n'avait jamais connue le petit Georges lui paraît tout simplement magnifique. Donani est, disons-le, impressionné par la prestation de ce postulant. Il l'accepte dans sa classe et Xifra fera désormais l'économie de son billet aller-retour de tram et il traversera la ville à pied pour aller suivre les cours. « Ce petit pécule, dit-il en parlant du billet économisé, me permettait de constituer un semblant de bibliothèque musicale que j'achetais chez des brocanteurs au prix du papier usagé. » Xifra bénéficie d'une dérogation à l'académie, car il n'est pas de règle d'y être admis sans avoir accompli tout un cycle d'études préliminaires, vous savez comment ça se passe. Mais lui va suivre directement les classes de maître pour pallier son retard et ses lacunes, notamment la classe d'Istvan Toman, qui est l'élève de Liszt, professeur vénéré de Béla Bartok, et puis les cours de Donani, bien sûr. Et c'est ainsi que ce petit loqueteux autodidacte va se retrouver dans la classe de virtuose qui avait le double de son âge à l'époque. Il y a un magazine qui publie sa photo en couverture et qui titre « Le plus jeune pianiste du monde ». Et le journaliste écrit dans son article que la Hongrie aussi a désormais son petit Mozart. C'est incroyable ça, bien sûr. Le grand galop chromatique de Franz Liszt, interprété bien sûr par Georges Xifra. L'enregistrement date de 1956 ou 1957.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est une carrière de virtuose qui s'ouvre devant Georges, mais tout ça était sans compter avec la déclaration de la guerre. Xifra est âgé de 21 ans à ce moment-là et il reçoit son ordre de mobilisation à l'automne 42, hein, parce que c'est l'époque où la Hongrie va tomber dans l'orbite nazie. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les croix fléchées. À l'époque, sa femme est enceinte de son fils, qui donc va s'appeler lui aussi Gyorgy, ce sera Georges Junior. C'est vrai que l'hostilité immédiate de Georges au régime va s'accentuer du fait que son épouse, qui pourtant est née à Rome, est d'origine égyptienne. Quant à son fils, il a hérité du teint mat de sa mère et du sang tzigane de son père. Tout ça ne répond pas au canon, à rien bien entendu. Xifra ne montre pas de zèle particulier pour saluer ses supérieurs au camp militaire et il va subir les brimades d'un lieutenant bedonnant qui joue au petit chef comme on en trouve partout. Les cartes de son destin ne se redistribuent pas à son avantage puisqu'il va se voir réquisitionné et partir sur le front russe. Alors qu'il ne lui restait que 2 semaines d'entraînement à accomplir. C'est sans doute ce méchant lieutenant là qui a manœuvré en douce. Xifra est envoyé en fait quelque part en Pologne. Il a essayé de simuler un malaise, mais ça n'a pas suffi. Le voilà qui devient pilote de char. Des officiers de la Wehrmacht qui sont de passage dans le camp manifestent le désir d'entendre de la musique et on demande qui sait jouer du piano. Xifra réprime son dégoût, il accepte de se produire devant ces Allemands, alors qu'il n'a même pas touché de piano depuis 2 ans, et comme il peut, il va improviser sur des thèmes de Liszt, de Berlioz, de Wagner, sans oublier bien sûr le beau Danube bleu, et la sempiternelle Lily Marlène. Il y a un officier qui remarque cette prestation, il est même très admiratif, et il lui propose de l'accompagner en Allemagne afin d'y rencontrer Richard Strauss en personne. Sauf que le farouche Tzigane refuse obstinément. Et c'est ici que vient se placer un épisode rocambolesque, un peu digne de... C'est digne de James Bond, vous savez. Xifra fait cadeau de la bouteille de cognac que cet officier allemand lui a offerte à des pilotes de train. Et c'est comme ça qu'il parvient à tromper la vigilance des gardiens, à prendre la fuite en mettant lui-même en branle la locomotive en direction des lignes russes. Il saute en marche, il ne sait même pas comment on peut arrêter la machine de toute façon. Des partisans mettent la main sur lui, vont l'enfermer avec d'autres déserteurs et des réfugiés dans une mine désaffectée. Aucun des réfugiés, en dépit de leur situation, n'a évidemment intérêt à quitter ces lieux qui pourtant sont sous la menace d'une invasion des forces pro-allemandes. Il va décider quand même de s'échapper, Xifra. Il profite du sommeil de la sentinelle qui a sans doute un peu trop bu. « Bien sûr, écrira-t-il, ma tenue, ou du moins ce qui en restait, attestait de mon appartenance au camp adverse. Mais j'espérais que cet amalgame me servirait de passe-partout au cours de mes futures pérégrinations lointaines. Certes, ainsi accoutré, j'étais passible des sanctions de la cour martiale des deux camps adverses, mais franchement, je n'étais plus à cela près. Je voulais revoir les miens. Le reste m'importait peu. » Il va par hasard trouver un camp hongrois qui est un hôpital de campagne. Et là-dedans, il va retrouver d'autres partisans. Il joue à l'orgue de la chapelle de cet hôpital. Il n'a pas plutôt quitté les lieux qu'une déflagration épouvantable va réduire à néant cette chapelle. C'est un obus qui est tombé. Et Xifra trouvera refuge de nouveau dans une mine avec d'autres partisans qui, comme lui, sont pour la plupart des déserteurs. Bref, il attend comme il peut la fin de la guerre. « Oui, écrira-t-il, avec le recul. Je crois vraiment que j'atteignis à cette époque de ma vie le point culminant du désespoir. » Cette sorte de désespoir est imbattable car il ne s'empare d'un être qu'une fois le processus de renoncement dépassé et accompli. Pendant mon séjour, ou plutôt ma captivité, je commis l'imprudence de donner quartier libre à mon esprit et à ma volonté, croyant qu'un rythme d'existence aussi végétative augmenterait mes chances de survie. Ce fut, de ma part, une grossière erreur. Thank you. Sexy Fra, bien entendu, qui interprète cette bien sombre polonaise numéro 4 de Frédéric Chopin.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Maintenant, l'armée rouge a libéré, entre guillemets, les territoires où se trouve Xifra, notamment toute cette Hongrie. Il est loin de se douter, notre pianiste, que la présence des Russes ne signifiera pas pour lui la liberté, mais au contraire toute une série de nouvelles épreuves, avec encore un long tunnel à traverser. C'est le retour à la vie militaire sous un autre uniforme, c'est tout. Le soldat Xifra va devoir former de jeunes recrues. On lui propose de se produire devant les officiers au piano, un piano en fort mauvais état du reste, qui est appareillé à ses mains calleuses de vieux briscards constellés d'ampoules et de crevasses, dira-t-il. Le voilà en tout cas contraint de refaire ses gammes pour essayer de décourdir des doigts un peu ankylosés. Il jouera la deuxième rhapsodie hongroise de Liszt tout de même. Il va retrouver sa famille, notamment son fils qui maintenant a 4 ans, sa femme, sa belle-mère, employée comme manœuvre dans une Syrie industrielle. On est donc dans une Budapest ravagée, pleine de ruines. Xifra joue dans des bars pour gagner sa vie. L'heure est au divertissement et au plaisir retrouvé. Il se produit aussi bien dans un salon de thé qu'aux côtés de jazzmen, où il va improviser toutes sortes de morceaux maintenant américains. « Dear George », lui dit le responsable, « vous êtes aujourd'hui le leader des pianistes et si vous arrivez à passer en Occident, d'autres vous le diront. Vous pourrez vous mesurer avec Monsieur Horowitz et ses pairs. » Arrive 1956 et alors qu'il est en train de tenter de passer à l'ouest avec sa femme et sa fille, eh bien, la famille est interpellée et inculpée. On les traite d'espions à la solde des capitalistes, comme on parlait à l'époque. Xifra est malmené au cours de ces 18 derniers mois de réclusion. Il va intégrer les rangs d'un camp disciplinaire où lui faudra porter des pierres de taille. Pendant 10 heures, jour après jour, monter des blocs de 60 kilos du rez-de-chaussée au 6e étage, vous imaginez. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que le haut fonctionnaire hongrois à la solde du régime soviétique qui inflige ce genre de sanctions à Georges Xifra n'est autre que l'ancien marchand ambulant, vous savez, l'homme qui, dans sa jeunesse, avait changé son destin.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
À sa sortie de prison, Xifra va consacrer 4 mois à la rééducation de ses mains. Et puis il cherche un travail à Budapest pour réhabituer progressivement mes doigts gonflés à cet effort d'un autre genre, donc jouer au piano. « J'étais obligé de remettre mes poignées de force qui maintenaient mes jointures et atténuaient la douleur », dit-il en empêchant mes mains de se déformer. Pendant longtemps, j'allais être obligé de porter cet accessoire le plus cocasse de l'histoire. C'est que par la suite, pas mal de gens du métier se sont mis à porter des bracelets de cuir, persuadés qu'il s'agissait d'une nouvelle astuce de mon invention destinée à favoriser la haute virtuosité. Voilà pourquoi Jérémy Bigori nous parle de ce virtuose au bracelet de cuir. Alors, Xifra va très vite opter pour l'exil, le plus tôt possible, après avoir triomphé dans l'un des concertos réputés les plus difficiles de tout le répertoire, le deuxième concerto de Bartok, qui suscite une exaltation patriotique au cours d'un grand concert à Budapest le 22 octobre 1956. Il y a 2000 spectateurs dans la salle qui chantent l'hymne national. Eh bien, Xifra va réussir à gagner la France. Il passera par l'Autriche. Et le 2 décembre, le voilà au Châtelet, où les Parisiens lui font une ovation. Le critique du Figaro, Bernard Gavotti, dont on aura peut-être l'occasion de parler un de ces jours, le compare à l'Horowitz d'avant-guerre. Et son deuxième concert à la salle Pleyel met littéralement le public en transe. Et dans la foulée, il va entamer une série d'enregistrements chez Pathé Marconi. Ce sont ses premiers disques consacrés aux études, aux rhapsodies hongroises, aux concertos de Liszt. Tout ça est légendaire, bien entendu. En 73, il va glorifier la chapelle royale de Saint-Frambourg à Senlis sur les conseils d'André Malraux et avec le soutien d'Ève Barr, Madame Barr, vous voyez, l'épouse hongroise du futur Premier ministre. Il s'emploie durant 4 ans à convertir les ruines de cette chapelle royale en auditorium, qui deviendra l'auditorium Franz Liszt, achevé en 77. Et voilà ce que nous dit Malraux à ce propos. Malraux, mi-admiratif, mi-goguenard, disons. C'est un comble que ce soit un descendant d'Attila qui reviennent en France pour restaurer le berceau de nos rois, dit-il. À l'initiative de Xifra Junior va être créé le festival de la Chaise Dieu et vous savez que son père inaugurera les orgues de l'abbaye qui, pour la circonstance en 76, ont été restaurés.
Xifra, de plus en plus, va se mettre à espacer ses apparitions, surtout après la mort tragique de son fils qui était devenu chef d'orchestre. Son fils meurt en 81, on l'a retrouvé brûlé devant sa cheminée. Georges Xifra ne se produira plus en public à l'issue de son dernier récital à Montreux en 1988. À partir de là, il ne jouera plus que pour ses intimes. Xifra avait choisi la France. Mais on doit pouvoir dire aussi que les Français l'avaient choisi. À sa disparition en 1994, Philippe Simon écrira que Xifra était, je le cite, « sans doute le pianiste français le plus aimé depuis Samson François ».
Vous écoutez Radio Classique.
Partout en France, la Fondation du patrimoine fédère les énergies pour sauver une chapelle, un moulin, un lavoir, une forêt, pour rouvrir un musée ou restaurer un théâtre. Ensemble, soutenons la Fondation du patrimoine. Donnons un avenir à notre histoire. Et tous les jours, sur Radio Classique, retrouvez des personnalités qui témoignent de leur attachement à leur lieu de cœur dans Au cœur du patrimoine avec la Fondation du patrimoine. Vous aussi, partagez votre passion. Faites un don sur fondation-patrimoine.org.
On peut y aller, Sonia, je suis prêt.
Un petit coup de peigne et c'est parti.
On y va.
Il y a votre fille Cécile qui passe dîner ce soir, non? Qu'est-ce qu'on lui prépare de bon?
Ah ben des lasagnes, c'est son plat préféré depuis qu'elle est toute petite.
Parfait, on passe par le marché d'abord et ensuite on cuisine.
Aide aux seniors, gestes du quotidien, courses repas, lien social, ménage repassage. Avec O2, faire ensemble, c'est vivre mieux chez soi. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur o2.fr.
Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous connaissez et vous plébiscitez les rencontres de la salle Gaveau, où l'histoire et la musique se mêlent. Et bien cette fois, je vous invite à plonger dans l'univers de Bizet. Et c'est avec les très talentueux Eugénie Jauneau, Julien Henric et Antoine Paloc que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir Carmen.
Carmen ou la liberté, un concert Radio Classique avec Franck Ferrand, le 19 février prochain, salle Gaveau à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur salgaveau.com.
Radio Classique présente le dictionnaire amoureux de la bande dessinée par Benoît Peters. Voyagez au cœur d'un monde où l'image et le texte se rencontrent et où chaque page est une célébration de la richesse du 9e art. Ce dictionnaire amoureux rend hommage aux dessinateurs et scénaristes à l'origine d'univers inoubliables, profondément ancrés dans notre imaginaire. Le dictionnaire amoureux de la bande dessinée par Benoît Peters aux éditions Plon. En vente partout et sur radioclassique.fr.
Peugeot. Impossible de résister au leader de l'hybride. Jusqu'au 31 janvier, pendant les irrésistibles Peugeot, craquez pour la 208 hybride dès 169 euros par mois et jusqu'à 8 ans de garantie offert. Rendez-vous en point de vente ou sur Peugeot.fr. Portes ouvertes du 15 au 19 janvier.
Source 3A au 30 novembre 2025. LLD 49 mois 40 000 km pour une 208 style hybride. Premier loyer 2500 euros. Offre réservée aux particuliers sous conditions de reprise et acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care. Conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous l'attendiez ? La folle soirée de l'Opéra Radio Classique revient pour deux soirées exceptionnelles. Venez vivre les plus belles émotions de l'opéra à travers les airs emblématiques des grands compositeurs. Un fabuleux concert vous attend, porté par l'Orchestre National d'Île-de-France et des voix d'exception. La folle soirée de l'Opéra, un concert Radio Classique animé par Jean-Michel Duez, les 19 et 20 juin prochains à 20h au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservation sur théâtrechampselysees.fr.
Radio Classique présente Le Petit Pianiste de Morgan Raoux et Julie Hanen, raconté par Guillaume Gallienne.
La porte du cinquième s'ouvre à la volée. Une vieille dame, assise dans un fauteuil roulant, un plaid improbable sur les genoux, apparaît à contre-jour.
Découvrez une tendre histoire d'amitié entre un petit garçon et une vieille dame réunis par leur amour de la musique. Le Petit Pianiste, un livre jeunesse aux éditions Nathan, en vente partout, avec CD audio et QR code inclus.
Les heures légères avec Élodie Fondacci sur Radio Classique.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à Radio Classique. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ces heures légères, dernières de la semaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Nous sommes le 16 janvier. Eh bien, le 16 janvier 1920 entre en application le 18e amendement à la Constitution des États-Unis d'Amérique. La fabrication, la vente, le transport, mais aussi la consommation d'alcool sont désormais formellement interdits sur toute l'étendue du pays. C'est le début de la prohibition. Une interdiction radicale qui est une victoire pour toutes les ligues de vertu qui, depuis des mois, militent pour une purification de la société. Et pourtant, cette noble expérience, qui va tout de même durer 13 ans, va être un échec retentissant et susciter des effets absolument radicalement inverses de ceux escomptés. Les trafics d'alcool explosent et on assiste à une augmentation massive du crime organisé et de la corruption politique. Les mafias développent leurs empires, Chicago, sous la férule d'Al Capone, s'attire la douteuse réputation de capitale du crime. La prohibition, c'est l'illustration de cet adage « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Chicago, mafia, alcool, fête clandestine, la prohibition est notre thème du jour dans les heures légères.
musique pour se mettre dans l'ambiance. Sing, Sing, Sing de Benny Goodman, roi du swing, clarinettiste américain exceptionnel. Parce que oui, à Chicago dans les années 20, c'est l'âge du jazz, de la prohibition et du whisky de contrebande. Et ça swing partout dans les villes. Alors on va écouter tout de suite Clap Your Hands, tiré de la comédie musicale OK de George Gershwin, qui justement se déroule durant la prohibition dans une maison au bord de la plage d'Ellis Island, où se cache une importante réserve d'alcool illégal, bien sûr. Le cœur d'enfant sotto-voce. Ah, ils sont géniaux, c'est vrai. C'était les enfants du cœur sotto-voce. Et nous écoutions Scott Alan Prouty, leur chef. À l'instant, Clap Your Hands, un cœur qui est tiré de la comédie musicale OK, donc, de George Gershwin. Alors, je vous le disais, s'il y a une expression qui peut illustrer la prohibition, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce que, au début, eh bien, l'origine de la prohibition, elle est surtout morale. Il s'agit des lobbies qui ont fait beaucoup d'efforts. Les ligues de vertu et de tempérance, souvent issues du monde chrétien, ont fait beaucoup d'efforts pour lutter contre les effets néfastes de l'alcool, notamment les violences conjugales, les agressions des femmes, etc. Et cela va donc déboucher sur l'interdiction pure et simple de l'alcool. Mais tout de même, eh bien, cela va engendrer des effets tout à fait inattendus, des effets de contrebande. Donc je vous propose d'écouter La marche des contrebandiers de Carmen de Georges Bizet. Thank you. Nous écoutions la marche des contrebandiers tirée de Carmen de Georges Bizet avec l'Orchestre Symphonique de Londres et avec Sir Neville Mariner. Car oui, cette interdiction de l'alcool va voir réapparaître les contrebandiers que l'on appelle les bootleggers. Pourquoi ? Parce que les contrebandiers qui distribuent de l'alcool sous le manteau cachent souvent les bouteilles dans leurs bottes. Et ils font d'importantes réserves dans les pays et les îles voisines et ils importent la pression. Ivresse. Qui dit trafic et contrebande dit aussi crime organisé et grand banditisme. Avec une forte présence et implication de la mafia dans ce trafic, bien sûr, je vous propose une tarentelle napolitaine tirée de la boutique Fantasque de Torino Respighi. Tarentelle napolitaine signée Ottorino Respighi. C'est un extrait de La boutique fantasque, un ballet qu'il a composé à partir d'airs de Rossini. Nous écoutions l'orchestre symphonique de Cincinnati et Jesús López Cobos, donc dans cette tarentelle frénétique. Chère Véronique, vous pensez immédiatement au cinéma, bien sûr, et aux incorruptibles. Car qui dit prohibition dit aussi Elios Netz, bien sûr, qui souhaite faire respecter la prohibition coûte que coûte, qui livre une guerre sans merci à la mafia. Voici dans cette musique d'Ennio Morricone, Yo-Yo Ma et le Roma Sinfonietta Orchestra.
On n'empêchera pas les gens de boire, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Tout ce que je fais, c'est agir en conséquence. Et toutes ces palabres sur la contrebande d'alcool, c'est quoi la contrebande ? Sur le bateau, c'est de la contrebande. Dans les quartiers rupins, c'est de l'hospitalité. Je suis un homme d'affaires. C'est vrai, il y a de la violence à Chicago, je ne le nie pas, mais elle vient pas de moi, elle vient pas des gens qui travaillent pour moi. Et vous savez pourquoi ? Parce que ça tue le commerce.
Thank you. Yo-Yo Ma au violoncelle, le Roma Sinfonietta Orchestra sous la baguette du compositeur Ennio Morricone, et à l'instant, le thème donc de ce film de Brian De Palma avec Kevin Costner dans le rôle-titre, Les Incorruptibles. Cher Henri, vous nous écrivez un message pour nous demander de faire couler à flot le champagne, comme il coulait à flot dans les bars clandestins. C'est la champagne polka que vous désirez écouter, elle est signée Johann Strauss.
Avec Élodie Fondacci sur Radio Classique.
Thank you.
Ce n'est pas une coupe de champagne, mais bien deux que nous venons de déguster sur Radio Classique, parce que paradoxalement, la prohibition n'a pas du tout limité la quantité d'alcool consommée, mais a au contraire encouragé la consommation. Nous avons écouté le champagne gallo de Lumbye et juste avant la champagne polka de Johann Strauss, qui sont vraiment du même genre. Georges Prêtre, dans les deux cas, dirigeait l'orchestre philharmonique de Vienne. Alors évidemment, c'est aussi dans ces années 20, période de la prohibition, que les États-Unis connaissent, dans l'ombre de la loi, les années de jazz, avec des figures de proue comme Duke Ellington, comme Ella Fitzgerald, ou encore, le blues, le hot jazz, sont en pleine effervescence. Je vous propose d'écouter cet alcoolique blues, tout à fait de circonstance, avec à la trompette Lou Watsons. Whisky makes me frisky. Alcoholic blues. La réponse un peu mélancolique, donc, et musicale surtout, de Von Tilzer et Lasca à la prohibition. Nous écoutions à l'instant Bill Dart, Dick Lamy, Wally Rose et Lou Waters. Alors, vos idées sont les bienvenues. Le thème du jour, c'est donc la prohibition et la musique classique sur Radio Classique.
Imaginez un monde sans la maladie d'Alzheimer.
La Fondation Recherche Alzheimer est le premier financeur à soutenir les avancées sur cette maladie qui touche 1 million de personnes. Légué à la Fondation Recherche Alzheimer, c'est préparer pour les générations futures un avenir sans Alzheimer grâce à une recherche d'excellence.
Legs, donation ou assurance vie, pour soutenir la Fondation Recherche Alzheimer à la Pitié-Salpêtrière, appelez le 01 42 17 75 23. Rendez-vous sur alzheimer-recherche.org.
les jeunes voix lyriques s'apprêtent à résonner à la salle Cortot. L'École normale de musique de Paris présente son gala de la voix qui met en avant les chanteurs de demain. Une soirée placée sous le signe de l'opéra italien, dans une acoustique idéale pour accueillir la nouvelle génération et décerner deux prix prestigieux offerts grâce au généreux soutien de la Fondation Minou Amir Aslani. Rendez-vous au deuxième gala de la voix.